Turning today to the Gospel of John, chapter 1 and verse 19.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 19. Jean chapitre 1, verset 19. C'est ici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Et notre sujet, c'est l'Évangile de la vie nouvelle, l'Évangile de Jean. Et je ne vais pas récapituler tout ce que nous avons dit. Nous en arrivons à ce verset 19 dans notre série d'études sur l'Évangile de Jean. Et nous lisons ici le témoignage de Jean ou le récit de Jean-Baptiste qui parle de Christ et qui déclare qu'il est le Messie. Et c'est là le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Et j'aimerais d'abord commencer avec le premier point, ce besoin désespéré de ce temps-là. Les Israélites étaient dans un besoin désespéré. Il y avait un tel déclin spirituel. Les choses étaient dans un état si terrible. Avant la venue de Christ, il fallait envoyer un prédécesseur pour les amener à la repentance, les appeler à la repentance. Nous lisons ici au verset 19, les Juifs, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Et je pense que vous savez que quand vous lisez ce terme, les Juifs, dans l'évangile de Jean, cela presque toujours signifie les chefs des Juifs. Ceux qui étaient hostiles contre Christ, opposés à lui. C'est un terme que l'apôtre Jean, l'apôtre de l'évangile de Jean, utilise pour décrire le conseil du Sanhédrin, les scribes, les pharisiens, les chefs des Juifs qui étaient opposés à Christ. Il utilise ce terme « les Juifs ». Ainsi, en lisant ce terme « les Juifs », vous vous souvenez que c'est là une délégation qui est envoyée, hostile, opposée à Christ, qui est venue là pour interroger Jean-Baptiste. Que fais-tu? Quelle est ton autorité? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Et voici le témoignage de Jean, le récit de Jean, le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Les Lévites étaient probablement la police du temple, nous pensons, c'est très probable, et les sacrificateurs étaient ceux qui interrogeaient. Et ils sont venus de Jérusalem pour lui demander « Qui es-tu ?» Ils étaient des gens très hautains. Ils n'avaient pas beaucoup recherché, et nous voyons ceci dans leurs questions. Et Jean-Baptiste disait clairement qui il était et qui il n'était pas dans sa prédication. Quand il appelait les gens à la repentance, ça aurait été très facile pour eux de trouver exactement ce que Jean disait, parce que comme nous lisons dans Matthieu 3, nous avons lu ceci dans notre lecture de la parole de Dieu, beaucoup de gens de Jérusalem avaient déjà entendu Jean-Baptiste. Ils étaient venus là en foule dans cet endroit où il baptisait, dans cet endroit appelé dans l'évangile de Jean Bethabara ou Béthanie. Cet endroit appelé Béthanie, qui était là près du Jourdain, dans l'est du pays, qui est appelé Bethabara ou Béthanie, et qui n'est pas l'endroit où Marthe et Marie habitaient, c'est un autre Béthanie. Notre version choisit ce terme Bethabara, qui est dans ces manuscrits qui sont plus fidèles. Mais c'est là où était Jean, là où il baptisait, et les gens allaient en foule, des milliers de personnes allaient de Jérusalem, de toute la Judée, dans cet endroit-là. Et dans l'évangile de Matthieu, il est écrit que même beaucoup de sacrificateurs, des pharisiens et des sadducéens, allaient également écouter Jean et se faisaient baptiser et étaient profondément impressionnés par Jean. Ainsi, ça aurait été facile pour le conseil du Sanhédrin, pour cette délégation, de savoir exactement, de trouver exactement comment Jean se décrivait lui-même. Mais ils n'ont même pas essayé, ils étaient des gens hautains, ils ont entendu des rumeurs. Et immédiatement, comme ceci était un défi contre leur autorité exclusive dans ce pays, ce prédicateur si populaire était un problème pour eux. Lui qui baptisait, là, ils ont envoyé leur délégation. C'est une délégation très hostile. « Qui es-tu » demande-t-il. Et au verset 20, nous lisons « Il le confessa et ne le désavoua point. » Il était très ouvert par rapport à cela. Il leur dit « Je ne suis point le Christ. » Ce que nous lisons ici, c'est quelque chose qui s'est passé le premier jour de ces 4 jours consécutifs qui sont dans le récit ici du chapitre 1 de Jean. Jean avait déjà prêché pendant 6 ou 9 mois avant que ceci ne se passe. Après un certain temps, le Seigneur Jésus-Christ était venu à Jean pour être baptisé. Nous avons lu ceci dans Matthieu chapitre 3. Il a été baptisé. Et ensuite, Christ a souffert ces 40 jours de tentation terrible où il a été assailli par l'ennemi de nos âmes. Et après ceci, à un certain moment, il semble revenir à Bethabara et il est là dans cette foule quand Jean est interrogé par cette délégation qui est venue de Jérusalem. Et ceci, c'est peut-être en mars 27 après Jésus-Christ, nous pouvons supposer. Et il lui demande au verset 21, « Qu'es-tu donc ? Es-tu Élie ? Si tu n'es pas Christ, es-tu Élie ?» Les Juifs de ce temps-là prenaient ces prophéties de Malachie de manière trop littérale, en pensant que Élie allait venir avant Christ. Mais ce n'est pas Élie qui venait littéralement, mais quelqu'un comme Élie qui allait venir dans son assurance, dans sa prédication, quelqu'un qui était assuré, qui était comme Élie, qui était simple dans sa vie, dans son style de vie. Et Jean-Baptiste était exactement comme Élie, mais il n'était pas Élie. Et il dit au verset 1, « Je ne le suis point, es-tu le prophète, celui que Moïse a prédit, qui était Christ, bien sûr, le prophète. » Et à nouveau, les chefs des Juifs de l'époque pensaient que ce prophète, qui était Christ, prophétisé par Moïse, était un autre prophète qui allait venir avant Christ et lui demande « Est-ce que tu es un autre Moïse ?»« Non, » il répond. Et au verset 22, ils lui disent « Mais alors qui es-tu afin que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés ?» Et cette hostilité est là dans leurs paroles. « Ne te moque pas de nous !» Nous sommes envoyés, nous ne te demandons pas ceci de notre propre autorité. Nous venons du conseil juif de Jérusalem et ils peuvent t'attaquer si tu ne réponds pas correctement. Ceci est très hostile, très dur et peut-être que ceci ne ressort pas de notre traduction. Qui dis-tu de toi-même pour que nous puissions répondre à ceux qui nous ont envoyés? Ainsi, ils l'interrogent parce qu'ils sont dans une disposition d'esprit qui est si méchante. Au verset 23, elle dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, qui est prophétisé dans Ésaïe 40. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et ils lui demandèrent « Pourquoi donc baptises-tu ? » Le baptême était un rite tout particulier qui était administré par les sacrificateurs aux prosélytes et à d'autres dans des circonstances très contrôlées et régulées dans le système de l'Ancien Testament. Quelle est ton autorité ? Jean-Baptiste était un lévite, le fils d'un sacrificateur, mais quelle est ton autorité pour baptiser là à grande échelle, pour administrer le baptême ? Qui t'a autorisé de faire cela ? C'est là ce qu'ils veulent dire. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, un prophète comme Moïse ou quelqu'un qui est grand? Qui t'a donné cette autorité? Ils n'ont pas été affectés par sa réponse, pas du tout. Quand il a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert », celui qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe pour ouvrir la route pour le Messie, est-ce que ceci ne vous intéresse pas? Vous avez cette grande foule. Mais ces sacrificateurs ne sont pas intéressés, ils ne sont pas affectés, ils ne veulent pas entendre parler du Messie qui vient. Ils avaient cette idée que le Messie allait être un Messie politique, un grand chef, un roi qui allait les délivrer de l'autorité romaine. Et quelle est cette personne? Ils ne sont pas affectés, ils ne sont pas touchés et ils continuent simplement à l'interroger. Et tout ceci nous montre cet état désespéré de la nation juive à l'époque. cette voix au singulier, la voix de celui qui crie dans le désert, comme prophétisé par Ésaïe et par Malachie, une voix, une seule voix, seule, solitaire. Est-ce qu'il y avait des prophètes? Non, il n'y a pas eu de prophètes pendant 400 ans et Dieu n'œuvrait plus dans leur nation. Est-ce qu'il n'y avait pas de sacrificateurs, de lévites, de chefs juifs qui prêchaient Christ, la venue de Christ, un sauveur du péché, et qui prêchaient la signification des sacrifices de l'Ancien Testament, cette grande espérance des juifs, le salut, la résurrection, et pour que tout ceci soit prêché à toutes les nations? Non, ils étaient endormis par rapport à tout cela. Tout ce qu'ils voulaient, c'était un messie politique, une meilleure vie. Et ils voulaient être délivrés de l'oppression romaine. Ils ne voulaient rien de spirituel. Même les chefs juifs ont envoyé cette délégation et ne sont pas intéressés du tout quand Jean-Baptiste parle du Messie et le fait que lui le précède. Quel état terrible dans cette nation! Ceci est terrible et surprenant. C'est la première chose que nous voyons alors que nous considérons ce texte. L'hostilité des chefs juifs et ils sont si aveugles et la vie spirituelle n'est pas là. Cette situation est terrible, la nation est comme morte spirituellement. Et ceci nous amène au verset 26. Pourquoi baptises-tu? C'est là notre deuxième point. J'aimerais parler un moment des deux baptêmes. Et ceci est très important. Et j'aimerais appliquer ceci également pour nous aujourd'hui. Ces deux baptêmes. Regardez ce verset 26. Par quelle autorité est-ce que tu fais ceci de baptiser ces foules? Jean leur répond, pour moi, je baptise d'eau. Mais il y a quelque chose qui est laissé de côté là, qui n'est pas réellement laissé de côté. Et vous devez toujours vous souvenir quand vous lisez l'évangile de Jean, que Jean pense que vous connaissez les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et il dit un certain nombre de choses sans les détails. Et il pense que tout ceci, vous les connaissez, que vous connaissez les évangiles qui ont été écrits avant cet évangile. L'apôtre Jean nous enseigne des choses extraordinaires et merveilleuses, mais il n'enseigne pas tous les détails, parce que c'est là le dernier évangile qui a été écrit. Pour moi, je baptise d'eau. Et en grec, ce terme qui est souligné, c'est « je » et « l'eau ». Je baptise avec de l'eau. Et ensuite, il pense que vous savez tout le reste de ce que Jean-Baptiste a fait. Et si vous lisez Matthieu 3, vous pouvez voir ceci au verset 11. Matthieu 3, verset 11. Pour moi, je vous baptise d'eau. Et il y a également ici le je et le d'eau qui sont soulignés en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voyez-vous la manière par laquelle Jean, l'apôtre Jean, cite Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1, et il pense que vous comprenez le reste de ce que Jean-Baptiste a dit et prêché. Ainsi, nous lisons dans Jean chapitre 1, « Je baptise d'eau, et vous devez remplir ce qui manque avec Matthieu 3, verset 11, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et Jean part du principe que vous connaissez ceci. « Moi, je baptise d'eau, cela signifie que lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. » Il y a ces deux baptêmes, voyez-vous. Jean a prêché la repentance, que les gens doivent se repentir de leurs péchés. Si les gens se repentaient réellement et qu'ils croyaient ce que Jean prêchait, que le Messie allait venir, alors ils allaient se confier en lui pour le salut. Et ils allaient recevoir le deuxième baptême, même avant que Christ allait commencer son ministère de manière officielle. Mais le problème, c'est que ceux qui écoutaient Jean, ce n'était pas la faute de Jean, mais ils se repentaient d'une manière très superficielle. Ils se repentaient pour la mauvaise raison, souvent. Ainsi, ils n'ont pas été convertis. La plupart d'entre eux n'ont pas été transformés, convertis. Ils n'ont jamais connu expérimenter ce deuxième baptême que Christ donne à ses enfants. Qu'est-ce que c'est que le deuxième baptême? C'est le baptême du Saint-Esprit, la conversion, quand le Saint-Esprit entre dans votre vie et vous transforme, et vous êtes baptisé, rempli, si vous voulez, de cette vie nouvelle, de cette vie spirituelle, et de cette compréhension spirituelle, de ce but spirituel, de ces goûts spirituels, cette nouvelle manière de penser. Et vous êtes baptisé de feu, vous êtes convaincu de péché et vos péchés sont brûlés et vous repentez réellement. Et vous dépendez uniquement de Christ, vous vous donnez à lui et Christ est mort à notre place. Il a porté notre péché à la croix du calvaire et nous croyons en lui. C'est là ce que c'est que d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu, c'est la conversion. Aux gens on dit « Moi je prêche la repentance ». J'espère que vous vous repentez sincèrement et qu'il y ait cette œuvre spirituelle en vous, mais le baptême que je donne, c'est simplement un symbole, un signe qui montre que vous êtes repenti. La personne qui donne la vie et la puissance et le vrai baptême, le baptême de l'Esprit, c'est une autre manière de décrire la conversion à Christ, cette grande transformation dans nos vies. C'est Christ qui donne ce baptême et Christ vient et il va payer le prix à la croix du calvaire. C'est là le sens de ce que Jean faisait. Et voyez-vous, il y avait ces deux baptêmes. Et le problème, c'est que tant de ces gens ne s'étaient pas repentis réellement, sincèrement. Et vous pouvez voir ceci dans ce texte parce que quand Christ a commencé son ministère, ils ont profité de tous ces miracles. Mais ils l'ont rejeté. Même dans sa ville natale, dans son village de Nazareth, ils ont essayé de le faire mourir, mais par sa puissance divine, il était capable de passer à travers et de se délivrer lui-même. Et à Jérusalem, ils ont essayé de le mettre à mort, mais jamais ils n'ont pu le mettre à mort avant l'heure que le Père a décidé, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont décidé. Et alors, après cela, il a été arrêté dans une faiblesse apparente, il a été crucifié et il est mort pour les pécheurs et il est remonté au ciel. Chers amis, les gens de l'époque l'ont rejeté. Quand ils ont crié contre lui, qu'ils ont crié pour son exécution, ils ne se sont pas réellement repentis par la prédication de Jean. Ce n'est pas la faute de Jean. Peut-être que certaines personnes se sont repenties, mais la majorité... Non. Pourquoi se repentir? Pourquoi se soumettre là au baptême, au Jourdain? Pourquoi est-ce qu'ils se faisaient baptiser? Ils avaient leurs propres raisons pour se repentir d'une manière superficielle. Nous voulons une meilleure vie. C'est là le prédécesseur de Christ. Il voulait une meilleure vie sur cette terre. C'est là ce qu'il voulait, une vie plus prospère, confortable. Il voulait faire partie d'une grande nation qui allait même régner sur le monde, peut-être. Il ne voulait pas Christ. Il ne voulait pas le pardon des péchés, le salut. Ils se sont dit, « Oh, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes des enfants d'Abraham. » Même si Jean leur a prêché, nous avons lu ceci dans Matthieu 3, « Ne pensez pas que tout va bien pour vous parce que vous êtes des enfants d'Abraham et Dieu peut faire de ces pierres des enfants d'Abraham. Mais vous êtes sauvés uniquement si vous vous repentez. » Si vous avez cette vie nouvelle, ainsi, ils se repentaient, mais d'une manière superficielle. Parce qu'ils pensaient que ceci allait leur donner une grande délivrance politique, mais ils ne voulaient pas le sauveur. Il y a ces deux baptêmes, et ceci est important. Ce baptême qui est un signe, un symbole qui est bon, si nous le comprenons de la bonne manière, c'est la bonne chose à faire. Nous disons, j'ai été sauvé par le Seigneur, ma vie a été transformée et je vais lui obéir en me faisant baptiser. C'est là ce qu'il a commandé et ceci est une image de cette mort à la vie ancienne et cette résurrection dans cette vie nouvelle. Et c'est comme si je suis enseveli dans cette vie ancienne et je suis ressuscité dans cette vie nouvelle. Quel signe extraordinaire et ce symbole extraordinaire, si vous comprenez ce symbole, et que vous le prenez au sérieux. Mais pour certains, même de nos jours, C'est un symbole qui est vide de tout sens, qui lui-même ne fait rien, ne leur procure rien. Oh, que ce soit un symbole d'une expérience réelle, mais pour eux ce n'était pas le cas. Oh, Jean-Baptiste, quand la foule venait, il a travaillé si dur avec ses disciples pour les baptiser, mais il n'était pas sincère. Et ils retournaient directement à leur ancienne vie, à leur nationalisme juif, à leur orgueil si intense et à leur haine des non-juifs et à leur rejet du Messie. Et ils allaient crier pour son exécution. Ainsi, il y a quelque chose qui manque là, entre le baptême qui était un symbole et la chose réelle, véritable, qui est donnée par Christ. Et il y a souvent cette distinction entre les deux. Un auteur du 19e siècle, Sprague, et M. Fish également, Henri Fish, qui a écrit un livre sur le réveil, ces deux hommes ont averti les gens qui venaient dans l'église. Imaginez un temps de réveil où l'Esprit de Dieu œuvre et des milliers de personnes viennent au Seigneur, comme nous avions près d'ici. En 1739, ceci a commencé un matin plein de brouillard quand George Whitefield a prêché ici, pas loin d'ici, dans un parc. Certains ont jeté des briques, mais beaucoup de gens ont écouté, ont été sauvés. Un temps de réveil, et ceci est si puissant. Beaucoup de gens sont convaincus de péché et se repentent et se tournent vers Christ. Mais certaines personnes entrent dans l'église par ce fleuve, ils pensent qu'ils sont convertis, mais ils ne le sont pas. C'était une repentance superficielle. Ils voulaient quelque chose pour eux-mêmes. Et alors, ils ont commencé à être une mauvaise influence pour l'Église. Ils n'étaient pas d'accord avec d'autres personnes. Ils étaient souvent la source de difficultés dans l'Église. Et ceci s'est passé, et même au temps de la Bible, quand l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, il parle de ceux qui sont partis, qui était parmi nous, mais qui ne faisait pas partie de nous. Il n'était pas réellement converti, il pensait qu'il l'était, mais il n'était pas converti. Et Jean parle aussi de ces croyants qui sont fidèles. Vous avez cette onction, une onction d'en haut. Vous connaissez la vérité. Il y a eu réellement une œuvre dans votre cœur et vous avez été transformé, complètement transformé. Et en tant que converti, quand vous avez été sauvé, vous avez reçu de nouveaux goûts, de nouveaux désirs. Vous aviez cet instinct en réalisant que certaines choses étaient mondaines. Et quand vous avez lu l'Écriture, ceci était confirmé, attesté. Et vous avez lu que les croyants doivent sortir du monde et ils sont transformés. Et tous ces plaisirs mondains et ce manque de modestie, ces plaisirs, ces mauvaises paroles, et cette convoitise, cette ambition, tout ceci est sorti de votre vie. Et tout ce divertissement, la musique, les danses, et tout ceci, vous les avez laissés en arrière. Et vous aviez cette onction, vous avez vu ceci dans la Bible, vous avez ressenti ceci dans votre cœur, vous aviez cet instinct qui vous disait que ces choses étaient fausses, parce que auparavant vous aimiez ces choses, et tout d'un coup, toutes ces choses avaient perdu leur goût pour vous. Et ces choses, vous les avez laissées de côté. Elles sont devenues votre ennemi. Et maintenant, vous êtes complètement différent. Et vous avez lu également dans l'épître de Jacques. Et vous comprenez ceci. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est un ennemi de Dieu? Et quiconque sera un ami du monde est l'ennemi de Dieu. Et vous saviez ceci, parce que c'est écrit dans la parole. Et vous êtes une personne différente qui sort du monde, et cette convoitise, ces divertissements du monde, vivre pour soi-même, ce manque de modestie, ces plaisirs, cette musique du monde, ces danses, ces vêtements qui manquent de modestie, et l'alcool, et les rythmes de la musique, tout ceci vous les avez laissés en arrière. Oh, le rythme de la musique, j'ai besoin de ce rythme. Non, tout ceci vient du monde, et ceci ne vous attire plus. Vous vous êtes repenti de ces choses, vous avez tout laissé en arrière. N'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, dit l'apôtre Jean, l'amour du Père n'est pas en lui. Il n'a pas cette onction. Il n'a pas cet instinct de ce qui est juste. Et il ne voit pas ces choses dans l'Écriture. Et il ne peut pas être sauvé. Chers amis, ceci est très important. Il y avait deux baptêmes. Ce symbole du baptême d'eau n'est pas nécessairement la réalité, qui est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la conversion. Et la personne qui n'est pas réellement sauvée trouve que ce n'est pas une bonne chose que de se séparer du monde et n'aime pas l'Écriture qui dit « Ne vous conformez pas au monde », comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et ces gens n'aiment pas ceci. Ce n'est pas quelque chose qui est dans notre culture, parce que quand l'Évangile est venu en Angleterre, en Grande-Bretagne, ceux qui se sont convertis ont abandonné leur culture. Quand elle était mauvaise, il y a des bonnes choses dans la culture, mais il y a beaucoup de choses mauvaises parce que l'architecte de la culture, c'est le prince de la puissance de l'air, le diable. Le monde essaye de vous dire « Oh, la culture, c'est quelque chose de particulier, nous devons honorer la culture ». Non, la culture peut être terrible. Et les convertis ont renoncé à ce qui était mondain dans la culture. Quand l'Évangile est allé en Asie, en Inde, en Chine, les gens qui ont été convertis ont renoncé à ces choses qui étaient contre la Bible dans leur culture. Et ils ont reçu cette onction également. La parole de Dieu pour les diriger, ils avaient cet instinct. Et les chrétiens réellement convertis partout ont abandonné le monde, son manque de modestie, l'égoïsme, le moi, les danses, les divertissements, ils ont abandonné toutes ces choses. Quand l'Évangile est arrivé en Afrique, il y a eu cette séparation du monde, de tout ce qui était perçu dans cette culture comme étant contre les chemins de Dieu et contre la parole de Dieu. Les chrétiens ont toujours été différents de leur culture, jusqu'à récemment. C'était il y a quelques dizaines d'années, dans les années 60 et 70, que le mouvement charismatique, ils étaient les premiers à dire cela en disant « Tout va bien, nous pouvons accepter le monde ». Où beaucoup de charismatiques jusqu'à aujourd'hui ont obéi aux Écritures qui nous appellent à sortir du monde. Mais beaucoup de ces gens n'ont pas obéi en disant « Tout va bien, nous pouvons accepter le monde ». Et il y a ce petit mouvement qui a grandi, il s'appelait le mouvement chrétien mondain, en disant que vous pouvez accepter le monde et tout ce qui est en relation avec la tradition de la parole de Dieu a été balayé de côté par ces gens arrogants qui pensaient avoir la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient, peu importe ce que la Bible disait. Et ceci s'est répandu. Les pentecôtistes dans le temps étaient comme les chrétiens traditionnels, ils renonçaient au monde. Mais peu à peu, les charismatiques se sont étendus et ils disent maintenant, nous pouvons être les amis du monde. Ou ils n'ont pas le courage de dire que Jacques a tort, mais ils expliquent de leur manière en disant, oh, c'est là notre culture, non, ce n'est pas votre culture, vous êtes venus à Christ, vous lui appartenez, vous devez renoncer au monde. Pourquoi est-ce que certains chrétiens qui professent Christ retournent à leur état d'avant leur conversion? Peut-être qu'ils sont rétrogrades, terriblement rétrogrades, et qu'ils sont hypocrites, qu'ils sont venus à l'église, qu'ils ont maintenu leur profession pour Christ, mais leur méditation personnelle est devenue froide et a disparu, et peu à peu, ils sont rétrogrades. Peut-être qu'ils sont rétrogrades. Où il est très probable, et ceci est terrible, qu'ils ne se sont jamais convertis réellement. Ils n'ont pas reçu cette onction d'en haut, ils ne voulaient pas réellement abandonner le monde. Et ils l'ont fait parce qu'on attendait ceci d'eux. Oh, vous connaissez ce livre qui est sorti, Les merveilles de la grâce, les conversions de toutes ces personnes, de beaucoup de gens qui se sont convertis au temps de Spurgeon, comment est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient convertis? Toutes ces danses, le théâtre, le divertissement du monde, ces choses, ils les ont laissées de côté et ces choses, il ne les aimait plus. Christ vous a séparés, vous a appelés hors du monde, hors de ces mauvaises choses. Et ces danses modernes qui sont si terribles et immorales, Dieu vous a appelés hors de ces choses. Mais si vous n'êtes pas réellement converti, alors vous voulez revenir à ces choses, retourner à ces choses. L'apôtre Pierre dit ceci dans 2 Pierre, chapitre 2, et tout un chapitre est dédié à ceux qui retournent à cette vie qu'ils n'ont jamais laissée, parce qu'il n'y a pas eu ce baptême de l'esprit, pas de conversion, pas de vie nouvelle, pas de nouvelle compréhension, pas de nouveau désir pour Christ. Peu importe, si vous voulez danser ces danses modernes et tous les vêtements qui vont avec, qui manquent de modestie, et faire ces choses, alors chers amis, non seulement vous méprisez le ministère traditionnel de la parole de Dieu, mais vous êtes si orgueilleux et fiers, je sais mieux, je ne crois pas dans toute cette tradition des prédicateurs fidèles à la parole de Dieu, je ne crois pas dans tout ceci. Mais ceci est encore plus grave, vous méprisez Christ, vous rejetez sa parole. Oh, vous avez lu l'Écriture et vous rejetez les critères moraux de Dieu et vous mettez de côté, vous méprisez le plan du salut qui appelle les convertis hors du monde et vous ridiculisez toute l'histoire de l'Église de Jésus-Christ qui se tient fermement contre le monde et vous êtes si cruel contre les âmes qui sont incertaines et qui cherchent le Seigneur en disant « Oh, c'est simplement quelque chose qui peut être sujet à débat. Vous n'avez pas besoin de laisser le monde de côté. Oh, c'est un péché terrible, chers amis. C'est honteux. C'est quelque chose qui déshonore le Seigneur. Oh, qu'aucun chrétien qui professe Christ n'accepte le monde ou n'aide le monde ou n'encourage le monde d'aucune manière. C'est un péché terrible contre le Seigneur. Même ceux qui œuvrent dans le royaume de Christ, certains ont été coupables de cela. L'apôtre Paul dit « Démas m'a abandonné, il a aimé le monde présent. » Même des prédicateurs. Imaginez que Démas soit revenu. Imaginez que Démas soit revenu à Paul en disant « J'aimerais revenir et prêcher à nouveau demain. » Est-ce que Paul aurait accepté ceci? Bien sûr que non. Il lui aurait dit « Démas, si tu te repens de tout ton cœur, alors tu dois vivre en tant que chrétien et avoir un salaire et prouver à nouveau que tu es fidèle avant de pouvoir à nouveau être associé à l'œuvre de Dieu. » Parce que Paul se rappelle d'Achan dans le livre de Josué, quand il a péché, tout le camp d'Israël a dû expérimenter le retrait de la bénédiction de Dieu et la malédiction à cause d'un seul péché, d'un homme. Ainsi, vous ne pouvez pas revenir ainsi, vous ne pouvez pas avoir des prédicateurs dans le service de Christ ou qui enseignent à l'école du dimanche, qui font ces choses parce que nous avons été appelés à nous tenir hors du monde, parce que ceci va être un obstacle à la bénédiction de Dieu et empêcher la bénédiction et le salut des âmes. Mais j'ai parlé de ces deux baptêmes, le symbole du baptême d'eau et la réalité du baptême de l'Esprit. Oh, chers amis, qu'il n'y ait pas un fossé entre les deux. Souvenez-vous de ces paroles de John Newton, « Ô Sauveur, si dans cette ville, dans cette cité de Sion, je suis un membre, par ta grâce, que le monde me rejette, peu importe, je vais me glorifier dans ton nom, parce que les plaisirs du monde n'ont aucun attrait. Tous ces plaisirs du monde n'ont pas d'attrait pour moi, aucune valeur. Mais ceux qui ont ce baptême d'en haut, les rachetés sont dans le royaume de Christ et vivent pour lui. » Il nous reste peu de temps et j'aimerais en arriver à mon dernier point, au verset 29. « Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui Et nous ne pouvons pas conclure sans parler de Christ, cette vie nouvelle qui est donnée par Christ. Et Jean dit, voici, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a dit d'une voix forte, il prêchait comme Élie, et il l'a dit publiquement, voici l'agneau de Dieu, regardez l'agneau de Dieu, le sauveur du monde. Et ce sont là les paroles qu'il a utilisées. L'agneau de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? L'agneau de Dieu, est-ce qu'il voulait dire l'agneau pascal, l'agneau qui était tué et mangé par les enfants d'Israël avant de partir d'Égypte, l'agneau dont le sang a été mis sur la porte, et si vous étiez sous le sang de l'agneau, alors vous étiez délivré. Vous étiez délivré de la malédiction, du jugement de Dieu, grâce à ce sang de l'agneau. L'agneau de Dieu, si vous vous confiez en lui, en son salut, alors Dieu va vous pardonner et ne vous jugera pas, ne vous condamnera pas, et vous aurez la vie éternelle. Est-ce qu'il voulait parler là de l'offrande journalière? Un agneau offert chaque matin, chaque soir, chaque jour, un agneau offert qui était l'expiation pour le péché, également un sauveur d'une odeur agréable, l'agneau qui représentait le sauveur qui allait venir, qui allait faire cette offrande de sa propre justice si parfait, si glorieux, que ceci allait mériter le ciel pour tous ceux qui se confient en lui. Oui, c'est là ce qu'il voulait dire également, le sacrifice journalier dans le temple. Christ a souffert pour ôter nos péchés et il vit et il meurt dans cette justice parfaite, dans cette sainteté parfaite, de manière à ce que sa justice soit imputée à tous ses enfants pour leur donner la félicité éternelle pour eux. Est-ce qu'il voulait parler de l'agneau d'Ésaïe, dans Ésaïe 53, qui parle de Christ qui est amené comme un agneau pour être tué? Bien sûr que oui. Partout où l'agneau représente le Messie dans l'Ancien Testament, c'est là l'illustration de l'agneau ici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, des non-juifs et des juifs. Tous ceux qui sont les élus de Dieu, qui sont sauvés et qui se repentent devant Dieu sincèrement. Ainsi, ces trois points que nous avions ce matin, ce besoin désespéré des gens, les deux baptêmes, le signe, l'illustration et la réalité, et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde,